Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir, il est 17h30 en temps universel. Bienvenue dans cette édition du 7 juin 2019. Nathalie Barge à la présentation. Voici les titres. Lancement de la campagne électorale en Mauritanie, où 6 candidats sont en lice pour la succession du président Mohamed Ould Abdelaziz. Au Libéria, des milliers de personnes ont manifesté à Monrovia pour réclamer de meilleures conditions de vie. En visite à Khartoum pour une médiation, le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed appelle à une transition démocratique rapide. Mexico va déployer 6000 hommes pour empêcher les clandestins de transiter sur son territoire. Et juste après le journal, ce sera l'actualité économique et les sports. En Mauritanie, les 6 candidats à l'élection présidentielle ont débuté la campagne. Ce scrutin marque la première passation de pouvoir entre un président sortant et son successeur élu, Claire Morin-Gibourg.
En lançant sa campagne à Ouagadougou, l'ancien chef d'état-major et fidèle du président sortant, Mohamed Ould Cheikh Mohamed Ahmed, dit Ould Gazouni, a promis de ne laisser personne au bord de la route. Pour le premier tour prévu le 22 juin, il va affronter 5 candidats, dont l'ancien chef de gouvernement de transition, Sidi Mohamed Ould Boubacar, qui est soutenu par une coalition comprenant le parti islamiste Tewassoul, principale force d'opposition. À Nima, dans le sud-est, pour son premier meeting, M. Ould Boubacar a appelé ses partisans à un changement immédiat pour un régime civil, critiquant la perspective de voir se succéder 2 anciens généraux. Biramda Abed, le militant anti-esclavagiste, arrivé 2e aux dernières élections, est aussi dans la course. Le président sortant, Mohamed Ould Abdelaziz, a appelé à éviter à la Mauritanie un retour en arrière, affirmant que les autres candidats appartiennent au passé, à la période de l'insécurité et de l'instabilité.
En Côte d'Ivoire, des violences ont éclaté hier dans le département de Zouenoula après l'assassinat d'un chef traditionnel destitué par le préfet. Robert Djebidje a été tué par une arme à feu dans la nuit de mercredi. Des centaines de sympathisants en colère ont saccagé la préfecture de Zouenoula et paralysé la ville jeudi. La tension était toujours vive ce vendredi. Des milliers de personnes ont manifesté à Monrovia, capitale du Libéria, pour réclamer de meilleures conditions de vie au président George Weah. Des précisions avec Irénée Herman Ungbo.
D'abord quelques centaines, les manifestants étaient plusieurs milliers en fin de matinée à attendre les principaux leaders de la contestation. Ils doivent remettre au gouvernement leur cahier de doléances. Nous voulons de meilleures conditions de vie, nous sommes fatigués de souffrir, pouvait-on lire sur les pancartes. Les réseaux sociaux Twitter et Facebook ont été inaccessibles. Des dizaines d'associations de la société civile réunies au sein d'un conseil des patriotes et soutenues par des partis de l'opposition avaient appelé il y a 2 mois à manifester le 7 juin. Des policiers anti-émeutes ont patrouillé hier soir à bord de véhicules munis de canons à eau, exhortant les parents à garder leurs enfants loin de la manifestation. La communauté internationale s'inquiète d'une possible résurgence des violences. Le pays a subi une guerre civile qui a fait quelque 250 000 morts de 1989 à 2003.
Plus de 100 000 nouveaux déplacés et réfugiés ont été recensés depuis janvier au Niger, qui en abrite déjà 300 000. La détérioration de la situation sécuritaire observée depuis le mois de mars a entraîné d'importants mouvements de population et une réduction significative de l'espace humanitaire, a déploré Fatouma Bintou Djibo, coordonnatrice humanitaire des Nations Unies pour le Niger. À Difa, des attaques des groupes armés ont entraîné des mouvements secondaires d'environ 25 000 personnes, souligne le communiqué. De violentes attaques qui avaient fait 88 morts en mars. Le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, en visite à Khartoum ce vendredi, a appelé à une transition démocratique rapide au Soudan. Il tente une médiation entre le pouvoir militaire et les contestataires. Le point avec Abdourahmane Dia.
L'armée, le peuple et les forces politiques doivent faire preuve de courage et de responsabilité en prenant des actions rapides vers une période de transition démocratique et consensuelle dans le pays, a déclaré M. Ahmed dans un communiqué. Le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed est arrivé ce matin à Khartoum. L'Union africaine a annoncé hier la suspension du Soudan. Après l'échec des pourparlers entre généraux et chefs de la contestation, les forces de sécurité ont dispersé lundi par la force en sit-in. Un bilan établi par des médecins proches des manifestants fait état de 113 morts. Depuis le début de la semaine, les rues de Khartoum sont restées presque désertes, les habitants décrivant une situation de terreur avec la présence de paramilitaires, des forces de soutien rapide. Seuls quelques magasins étaient ouverts et peu de véhicules en circulation ce vendredi.
L'annonce d'un nouveau gouvernement en RDC est toujours suspendue au pourparlers entre les coalitions du président Félix Tshisekedi et de son prédécesseur Joseph Kabila, de l'aveu du nouveau Premier ministre. Dès la fin des pourparlers, vous aurez le gouvernement, a déclaré Sylvestre Ilunga Ilukamba, appelant à la patience. Nommé le 20 mai, il n'a pas encore été investi par le Parlement, dont la session ordinaire prend fin le 15 juin. Toujours en RDC, l'entreprise publique minière Gécamines est accusée par un collectif d'ONG de déclarations contradictoires sur les revenus et les paiements. Les données renseignent que la Gécamines a versé au Trésor public 109 millions de dollars contre 372 millions déclarés dans son rapport de novembre 2018, indique le rapport de la COGEP. La coalition invite l'entreprise nationale congolaise à rendre public tous les contrats signés dans les 60 jours en vue de se conformer au nouveau code minier.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les 5% de taxes douanières imposées par Donald Trump sur les produits en provenance du Mexique devraient en principe entrer en vigueur lundi. Pour tenter d'échapper à cette menace que le président attribue au laxisme face aux migrants entrant aux États-Unis, Mexico compte déployer 6000 hommes pour empêcher les clandestins de transiter sur son territoire. John Lyndon.
Le Mexique a donc déployé des policiers et des militaires dans l'état de Chiapas, au sud du pays, sur les routes empruntées par les migrants venant d'Amérique centrale. Mexico va également déployer 6000 gardes nationaux à la frontière sud du Mexique. Cette mesure, confirmée à Washington par le chef de la diplomatie mexicaine, est venue s'ajouter à d'autres gestes pour faire fléchir le président américain. Les autorités mexicaines ont décrété le gel des comptes bancaires de 26 passeurs présumés de clandestins, le renvoi d'une centaine de Honduriens dans leur pays et l'arrestation des militants pour les droits des migrants. La veille, elles ont stoppé environ 1200 candidats à l'immigration venus du Guatemala. Le président Trump accuse Mexico de ne rien faire ou presque pour empêcher le passage sur son sol des migrants qui veulent entrer illégalement aux États-Unis. Les États-Unis veulent que le Mexique renforce ses contrôles frontaliers et lutte davantage contre la corruption de ses gardes-frontières.
La première ministre britannique Theresa May a quitté ce vendredi la tête du Parti conservateur, ouvrant officiellement la course à sa succession, dont le vainqueur aura la tâche de mettre en œuvre le Brexit. Le comité responsable de l'organisation du Parti conservateur a annoncé sa démission. Un départ que la montée en puissance du parti du Brexit de Nigel Farage rend plus amer encore. Fondé il y a quelques mois et décidé à mettre fin au bipartisme britannique, cette formation europhobe a remporté la mise aux européennes fin mai avec 31,6% des suffrages. Un croiseur américain et un destroyer russe ont évité de peu la collision en mer de Chine. Les armées russes et américaines se rejettent mutuellement la responsabilité de l'incident. Pour éviter la collision, l'équipage de l'amiral Vinogradov a été contraint à une manœuvre d'urgence, a indiqué la flotte russe, ayant émis une note de protestation à l'encontre du croiseur américain. La 7e flotte américaine a répliqué en accusant le navire russe de manœuvres dangereuses et non professionnelles. Le chef du Pentagone par intérim, Patrick Shanahan, a indiqué que l'armée américaine allait en discuter directement avec l'armée russe. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco qui vous est présentée par Nani Talani.
La société américaine New Fortress Energy vient de signer un protocole d'accord avec l'Angola pour construire et exploiter un terminal de gaz naturel liquéfié. L'objectif visé est d'augmenter la capacité de production gazière de l'Angola pour satisfaire la demande des ménages et surtout celle du secteur industriel. Le régulateur nigérien de blocs pétroliers a annulé des contrats en raison de dettes héritées du passé. Le contrat de location de pétrole 98 a été retiré à Pan Ocean Oil Corporation. Les contrats OML 120 et 121 ont été retirés à Allied Energy Resources Nigeria. Express Petroleum et Gaz Company Limited ont perdu la licence OML 108 et Cavendish Petroleum Nigeria a perdu son autorisation OML 110. Le permis de prospection pétrolière 206 a été révoqué de Summit Oil International. Pour terminer, le groupe français Engie vient de signer avec le gouvernement de Djibouti un mémorandum d'entente relatif à la construction de la première centrale solaire photovoltaïque du pays. D'une capacité de 30 MW, l'infrastructure sera implantée dans la région de Grand Bara.
À présent, les sports avec Eric Manirakiza. Bonsoir Eric.
Bonsoir Nathalie.
La France lance le mondial 2019 féminin.
Oui, la France devient l'espace d'un mois l'épicentre du foot féminin. Les Bleus de Corinne Diacre donnent le coup d'envoi de leur mondial 2019 à domicile. Ce soir à 21h en temps universel. Avec une mission en tête, soulever le trophée suprême un an après le triomphe de l'équipe de France masculine, Nathalie. Le match d'ouverture va donc opposer la France à la Corée du Sud au Parc des Princes dans la ville des Lumières.
Ligue des Nations, le soliste Ronaldo face à l'orchestre orange en finale.
Triple buteur contre la Suisse en demi-finale de Ligue des Nations 3-1. L'attaquant turinois pourrait se sentir bien seul face au collectif des Pays-Bas dimanche en finale, car la relève portugaise reste comme inhibée par le quintuple Ballon d'Or. Cristiano Ronaldo, CR7 comme on l'appelle, encore donné le ton à son équipe pour lui permettre d'atteindre la troisième finale internationale de son histoire après l'Euro 2004 perdu à domicile et l'Euro 2016 remporté en France.
Basketball à présent, Golden State est toujours privé de Durant.
Golden State est dans la tourmente. Les doubles champions NBA en titre sont menés 2-1 par Toronto. En finale, NBA et sont décimés par les blessures. Le club sera encore privé de son ailier Kevin Durant. Absent depuis plus d'un mois pour le match numéro 4 ce soir, a annoncé ce jeudi son entraîneur Steve Kerr. Le staff médical m'a dit qu'il n'est pas encore prêt à jouer. Ce sont eux qui me donneront leur feu vert, a insisté le coach des Warriors. Durant, élu meilleur joueur des deux dernières finales, s'est blessé à un mollet le 8 mai contre Houston lors du match numéro 5 de la demi-finale de la Conférence Ouest. L'entraîneur de Golden State a toutefois enregistré une bonne nouvelle. Son arrière, Clay Thompson, blessé à un ischio-jambier dimanche et indisponible mercredi, pourra disputer le prochain match. Ceci dit, Nathalie, ce n'est pas le seul problème qui mine Golden State.
Effectivement, Eric, un copropriétaire de Golden State, disjoncté la NBA, le suspend un an.
Tout à fait, Nathalie. Leur image a été singulièrement écornée par le coup de folie de Mark Stevens. La Ligue nord-américaine de basket a agi vite et frappé fort. Elle a infligé ce jeudi une très lourde amende et une suspension d'un an à M. Stevens, qui est l'un des copropriétaires des Golden State Warriors, comme vous le disiez. M. Stevens, un homme d'affaires richissime, a bousculé et insulté le meneur de Toronto, Kyle Lowry, mercredi, durant le troisième match de la finale 2019, perdu à domicile par Golden State, 123-109, du jamais vu, Raptors s'envole vers le titre, Nathalie. Et c'est tout pour les sports.
Merci beaucoup, Eric, pour cette page sportive.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez bien Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Nathalie Barge en votre compagnie. À présent, les dossiers du jour. Le FMI a publié pour la première fois en 5 ans un rapport sur la situation économique de la RDC. La croissance est quelque peu en baisse, mais le pays reste sur la bonne voie. Une dernière revue est attendue en août prochain, avec une éventuelle reprise du programme avec l'institution de Bretton Woods. Éric Ambago de Top Congo FM a recueilli la réaction du vice-ministre des Finances, Jean-François Mukuna.
Le FMI reconnaît que depuis 2015, il y a eu des variations baissières. Et avec l'année 2018 que nous avons pris en charge nous-mêmes financement des élections et que nous sommes actuellement en situation haussière. Mais ça reste fragile parce que la RDC, comme vous le savez tous, ils ont bien noté que nous dépendons beaucoup des recettes minières. Avec quelques soubresauts, comme vous connaissez les codes miniers révisités, ça pose quelques petits soucis par rapport à ceux qui investissent. Néanmoins, de là, ils reconnaissent que les efforts sont fournis d'une manière considérable, qu'il faudrait sur le plan social maîtriser la masse salariale et en même temps avoir des objectifs précis pour résorber la pauvreté. Ce qui veut dire quoi en plus clair? Les efforts sont reconnus, les recommandations sont faites, maintenant c'est à la République démocratique du Congo d'analyser et de faire un choix. Mais l'idée principale c'est rentrer en programme avec le FMI. Je crois que de ce côté-là c'est pas négatif parce que nous appelons justement avec la nouvelle politique de nouveau chef de l'État qui vient d'accéder au pouvoir une réprise avec les institutions internationales, tous les aspects financiers. Mais en filigrane quand même, cette souveraineté nationale qui nous est chère ne nous échappe pas non plus.
Mais la croissance en 2019 sera un peu moins que 2015, 4% un peu plus à peu près. Est-ce que cela n'est pas inquiétant?
Non, je ne pense pas que cela soit inquiétant. Vous savez, dans tout ce qui est prévision économique, il y a ce qu'on appelle le scénario optimiste, réaliste et pessimiste. Le FMI, comme c'est quelque chose qui apporte de l'argent, c'est normal qu'il soit toujours sur les réserves. Mais les marges de manœuvre sont importantes. Le FMI le reconnaît, il y a des marges. À nous maintenant d'amorcer les réformes conséquentes pour que ces marges se transforment réellement en taux de croissance. Et en plus, l'incertitude internationale, qui peut garantir qu'un taux annoncé aujourd'hui sera le même dans 6 mois?
Est-ce qu'aujourd'hui la reprise d'un programme avec le FMI ne peut pas avoir un effet négatif, comme quoi le FMI, voulant aider le Congo malade, peut également aggraver la maladie pour que ce Congo demeure sous sa dépendance?
C'est un risque, mais comme vous savez, dans toute politique, il y a part du risque. Si vous n'assumez pas les risques, c'est que vous n'êtes pas politique. Mais comme nous avons déjà assaini les bases de nos finances publiques, je crois que nous pouvons amortir facilement le choc, tout en ayant une gestion prudente et des investissements à la hauteur des enjeux. Comme vous le savez aussi, il y a des investissements qui peuvent être productifs, d'autres qui endetteraient le pays d'une manière négative, qui vont impacter d'une manière négative. Donc c'est aux dirigeants de voir où ils peuvent mettre le curseur pour que ça aille mieux.
C'était Jean-François Mukuna, vice-ministre des Finances de la République démocratique du Congo.
À votre avis, votre émission interactive sur VOA Afrique, c'est aujourd'hui l'ouverture de la 8e Coupe du Monde de football féminin. Le premier match France-Corée du Sud se joue à guichet fermé. Que pensez-vous du football féminin? Quelles sont vos équipes préférées? Les Américaines, triple championnes du monde, peuvent-elles être détrônées par les Nigérianes ou les Camerounaises? Venez en discuter en direct ce soir sur VOA Afrique en appelant le 001 202 205 26 33. Vous pouvez également nous laisser vos commentaires et vos coordonnées sur la page Facebook de VOA Afrique. À votre avis, c'est ce soir à 18h05 sur VOA Afrique.
Au Cameroun, les overdoses de drogue et d'alcool tuent chaque année des milliers de personnes et surtout des jeunes. Les associations se mobilisent ainsi contre ce fléau, notamment par des campagnes d'information et de sensibilisation du grand public. Sur cette question grave de société, voici un reportage de notre correspondant à Yaoundé, Emmanuel Julntap.
Moi, je suis un consommateur moi-même.
Je suis un ex-usager de Glo.
Nous sommes au quartier Nkolmeseng, dans le 5e arrondissement à Yaoundé. La nuit est presque tombée, mais la campagne de sensibilisation et d'information sur les ravages des overdoses dans la consommation des drogues et de l'alcool au Cameroun suit son cours. Au fur et à mesure que les minutes passent, les langues se délient. les jeunes qui participent à la réunion se confient, mais dans l'anonymat. Ils ont tous mené le combat seuls face à l'overdose.
Et en matière d'overdose, je ne savais pas comment réagir. Et même dans mon entourage, la plupart du temps, on rit simplement quand on te voit dégamer. Et puis quand tu tombes dans les paumes, on dit, bah ça va, il va se réveiller.
Vous êtes consommateur de drogue, vous voyez que ça vous ruine. Il n'y a personne qui va vous dire, faites comme ça. Pour essayer de diminuer quand même et voir si avec le temps, on pourra arrêter.
Durant des années, ces jeunes ont été complètement dépendants du crack, de la cocaïne, à l'héroïne, au cannabis ou à la molécule du tramadol. Toutes ces drogues sont très répandues au Cameroun. Un ancien consommateur connaît les dangers.
Quand j'avais vu comment certains tombaient et ils commençaient à manifester comme l'épilepsie, c'est là où moi j'avais confirmé que non, c'était vraiment dangereux.
Les statistiques sur les overdoses montrent les ravages au Cameroun. Titus Dikoum, ancien toxicomane et aujourd'hui promoteur de Empower Cameroun, une association qui apporte de l'aide aux usagers de la drogue.
La tranche d'âge qui consomme beaucoup, c'est située entre 14 et 24 ans. C'est beaucoup plus prisé par la gente féminine. Certains ne savent pas qu'ils courent les risques d'overdose avec les substances qu'ils utilisent. Celui qui utilise le crack se dit que c'est celui-là qui s'injecte seulement qui peut avoir l'overdose. Celui qui utilise le tramol ne sait pas qui peut avoir l'overdose. Il se dit que c'est celui qui consomme la cocaïne qui peut avoir l'overdose. Donc c'est un peu aussi ce manque d'information au sein même de la communauté elle-même qui nous pousse aussi à sensibiliser les usagers de drogue eux-mêmes et aussi ceux qui n'en consomment pas.
Ce que nous faisons le plus en ligne, c'est le conseil.
Une ligne verte, le 4-25-55, a été mise en place grâce à un projet conjoint UNICEF, ministère de la Jeunesse, pour parler des conséquences de la drogue dans les milieux jeunes. Mais c'est surtout dans les centres hospitaliers où sont enregistrés les cas les plus alarmants. Marcel Mbalanoma, du service tuberculose à l'hôpital du district de Fulan à Yaoundé.
Pour des malades qui utilisent la drogue, qui prennent le traitement pendant 6 mois. Pour certains, ils suivent des conseils. Pour d'autres, au bout de 6 mois de traitement, ils s'en vont encore recommencer. Ou alors avant, ils n'arrivent pas à se retenir.
En 2018, selon le Comité national de lutte contre la drogue au Cameroun, plus de 12 000 jeunes âgés de 15 ans sont concernés par l'usage des stupéfiants et des psychotropes. Yaoundé, Emmanuel Jeloutap, VOA Afrique.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
Une remarquable exposition de fossiles a été inaugurée au Musée national d'histoire naturelle Smithsonian, ici à Washington. Une salle récemment restaurée contient plus de 700 fossiles, dont des dinosaures, des plantes et des insectes datant de plusieurs milliards d'années. Ces vestiges du passé nous transmettent aussi un message sur l'avenir et l'importance de la protection de la planète. Voici un reportage de Déborah Bloch, relaté par Lionel Gaïma.
C'était il y a 70 millions d'années. Les restes d'un tricératops sont exposés sous le squelette d'un Tyrannosaurus rex fossilisé. Matthew Carano, conservateur de dinosaures.
Nous savons maintenant que les dinosaures sont des animaux très vivants. Ils grandissaient vite. Nous savons aussi que les oiseaux sont des descendants des dinosaures. Beaucoup de dinosaures que vous voyez dans le musée ne vivaient pas nécessairement ensemble. Chaque espèce a vécu environ 1 million d'années.
La nouvelle exposition, intitulée Deep Time, est entièrement consacrée à la vie ancienne sur Terre. Son climat, ses écosystèmes et sa géologie ont évolué pendant 3,7 milliards d'années. Un palmier fossilisé découvert dans l'Arctique montre que cette région était autrefois tropicale. Le petit ancêtre des chevaux d'aujourd'hui vivait il y a 52 millions d'années. Siobhan Stars, chargé de l'exposition.
Nous expliquons et nous vous laissons explorer par vous-même ce qui a pu se passer il y a 55 millions d'années.
Les objets exposés illustrent à quel point la Terre a changé, affectée par les changements climatiques. Les scientifiques disent qu'il y a 66 millions d'années, l'impact d'un énorme astéroïde a modifié l'environnement et les dinosaures et autres formes de vie n'ont pas pu survivre. Mais aujourd'hui, l'exposition souligne que les humains sont les plus dévastateurs pour l'environnement. Siobhan Stars.
C'est un fait scientifique et les preuves montrent que nous avons un impact sans précédent sur cette planète.
Keith Johnson, du Musée de l'Histoire Naturelle.
Il y a beaucoup de choses spécifiques que vous pouvez faire pour atténuer les impacts du changement climatique et aider à préserver les espèces et les habitats.
Les organisateurs espèrent que l'exposition va encourager les gens à agir. Sue Bamstar.
Je pense que cette exposition peut vraiment changer le monde. Et je sais que cela semble idéaliste. Ce que j'aimerais vraiment, c'est que les gens soient mis en contact avec cette histoire sur l'impact que nous avons sur la planète. Et pour vraiment commencer à faire des choix intelligents pour diriger notre planète vers un avenir meilleur.
C'est donc comme un coup d'œil dans le rétroviseur pour mieux avancer vers l'avenir.
Nettoyer les ordures qui s'amoncellent dans les rues de Nairobi tout en créant des emplois, c'est le pari d'un groupe de jeunes Kenyans. Selon les Nations Unies, les ordures non ramassées sont un fléau dont souffrent plusieurs grandes villes africaines. Mais il existe bien sûr des solutions. Des jeunes du bidonville de Matar à Nairobi donnent l'exemple. Voici un reportage de Ruud Elmendrop sur un récit de Dilediko.
Je m'appelle Isaac Motitsia et j'ai 35 ans. Je suis cofondateur du groupe de jeunes pour la préservation de l'environnement à Matare.
Nettoyer le bidonville de Matare, celui que l'on surnomme Kaka, et son groupe, c'est la priorité absolue d'Isaac. Quelques 200 000 personnes vivraient dans ce taudis qui s'étale sur 2 km². L'endroit grouille de monde. Selon les Nations Unies, un habitant de la ville produit 1 kg de déchets par jour. Pour Matare, cela signifie que 200 000 kg d'ordures sont déversés chaque jour dans les rues.
Lorsque vous avez beaucoup de monde et qu'il n'y a pas de ramassage des ordures, vous constatez que tout le monde jette des déchets partout.
Les effets sont toxiques, notamment pour les enfants.
Quand on a beaucoup de déchets, comme ici à Matare, on voit souvent des patients souffrir de diarrhée, parfois du choléra. D'autres viennent avec une intoxication alimentaire parce qu'ils ont mangé dans la rue.
Ce sont tous ces dangers qui ont amené Isaac à agir.
Nous avons compris l'importance d'assainir notre communauté et de créer des emplois, car le chômage est un autre défi.
Sa société donne du travail à une centaine de jeunes qui ramassent les ordures. Ils gagnent de l'argent auprès des ménages. Une fois collectées, les ordures sont transférées sur un site légal. Leurs efforts ont été remarqués par des responsables locaux. Thomas Arimou est un leader local.
Nous encourageons les jeunes à copier ce que Matare fait pour la communauté, pour qu'elle reste en bonne santé.
Isaac se rendra à Nairobi à la prochaine réunion de l'ONU sur l'habitat pour parler de son expérience. Son rêve, c'est de rendre ce bidonville aussi propre et verdoyant que le complexe des Nations Unies à Nairobi.
Et c'est la fin de cette édition. La mise en onde, c'était Georges Léonard Sagnio. À la console, Nelson Lopez. À la présentation, Nathalie Barge. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook. Et rendez-vous également sur notre site internet voaafrique.com pour l'actualité en continu. Très bonne soirée à toutes et à tous en compagnie de Henri Francisque pour un rappel des titres. À très bientôt.
Afrique.